Attends, il a un QI de moins 160, il est trop intelligent.
J'ai passé des tests en ligne pour mon QI, alors autant te dire, je sais ce que j'aurai.
Elle, au potentiel? Elle est pas si intelligente pourtant, j'y crois pas, elle ment.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, nous allons parler de QI. Pour éviter tout malentendu, QI comme quotient intellectuel. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, non? C'est quoi au fait le QI? Et pourquoi on en entend parler à toutes les sauces? Est-ce que c'est vraiment lié à l'intelligence? On ne va pas y aller par quatre chemins. Le QI ne prétend aucunement et n'a jamais prétendu calculer l'intelligence d'un individu. Alors pourquoi pense-t-on souvent qu'il est utilisé comme tel et que les personnes qui obtiennent un haut score à ce test sont censées être beaucoup plus intelligentes, voire avec un potentiel démesuré? Reprenons la base. Le QI est un test psychométrique qui permet à un psychologue d'établir un diagnostic, souvent dans le cadre d'un examen psychologique un peu plus complet. Il va permettre de classer un individu par rapport à une population donnée et préciser son éventuel écart par rapport à ce qui a été défini comme une norme. Autrement dit, ce n'est qu'un indicateur parmi d'autres, mais qui ne prétend aucunement rendre compte de l'intelligence innée ou acquise d'un individu, que ce soit de façon partielle ou dans sa globalité. D'ailleurs, par exemple, il ne permet pas du tout d'estimer la créativité, la sensibilité, et pourtant, cela peut faire partie de types d'intelligence. D'ailleurs, ce concept d'intelligence en soi, il n'est pas toujours clairement défini. On parle des intelligences, et à ce jour, il n'y a toujours pas de définition claire, arrêtée et faisant consensus. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on calcule le QI? Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Et alors surtout, si ça ne mesure pas objectivement l'intelligence, pourquoi une telle défiance par rapport à celles et ceux qui assument un QI différent? Pourquoi les personnes qui ont fait le choix de faire un test de QI et qui bien souvent n'osent pas en parler, ne le font pas parce qu'elles ont peur d'être mal vues, parce qu'elles ont peur qu'on les juge et qu'on pense qu'elles se croient peut-être mieux que les autres selon leurs résultats? En France, le paradoxe autour de ce sujet est vraiment total et met beaucoup de monde dans l'embarras. Pourtant, le QI, ça reste un outil utile aux psychologues, à défaut d'un meilleur, comme l'explique par exemple Robert Voyazopoulos, qui est un psychologue chargé d'enseignement à l'école de psychologues praticiens et à l'université Paris 5. Il nous dit « C'est un outil précieux. Langage, comportement, processus de pensée, mémoire, une discipline ne peut pas reposer uniquement sur l'écoute et l'observation du sujet. Elle doit rechercher le maximum d'objectivation grâce à des outils de mesure et des modèles de référence. Même relative, la donnée du QI est donc la moins subjective et aléatoire qui soit, à condition d'être interprétée et replacée dans un contexte psychologique global. Livrée telle quelle, un chiffre nu, aux parents ou aux institutions, est à la fois absurde, dangereux et dénué de sens. » Le QI tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on nous le présente, n'a strictement rien à voir avec sa définition d'origine et la façon dont il a été utilisé quand il a été créé. Retraçons un peu l'histoire de la création du QI. Vers la fin du 19e siècle, avec l'essor de la psychologie, beaucoup de chercheurs ont commencé à s'intéresser de près à l'intelligence et à sa mesure. Par exemple, Sir Francis Galton en Angleterre, Mackin Cattle aux États-Unis, ce sont les premiers à travailler sur ce sujet et qui tentent de mettre en œuvre des tests fiables. Et pourtant, c'est en France que va naître le premier test utilisable en 1905. Alfred Binet, mandaté par le ministère de l'Instruction publique, dans le cadre des lois Jules Ferry, qui ont rendu l'école obligatoire, a mis en place un test permettant de détecter les enfants déficients afin de les aider à suivre un enseignement adapté. Binet, qui a été aidé par Simon, construit ses tests en se basant sur la notion d'écart entre l'âge réel de l'enfant et l'âge mental estimé. Donc ce dernier va se calculer en fonction de la capacité à répondre à des questions étalonnées par tranche d'âge. Par exemple, un enfant qui accomplit des tâches caractéristiques d'un enfant de 12 ans va être considéré comme ayant cet âge mental, quel que soit son âge réel. Ces tests sont un franc succès et se retrouvent, du coup, exportés très rapidement aux États-Unis. Alors, on va passer sur toutes les dérives eugénistes ou raciales qui ont existé et qui vont notamment être utilisées pour tester les immigrants à Ellis Island ou dévaloriser les Noirs et justifier des traitements inégalitaires. En 1912, l'Allemand William Stern décide de quantifier ses résultats de façon à établir un quotient qu'il va nommer « quotient intellectuel ». Par exemple, un enfant d'âge mental de 12 ans, mais qui a en vérité 10 ans, va être considéré comme ayant 12 sur 10. Terman, un autre scientifique, va transformer ce résultat en vrai quotient pour éviter les histoires de décimales et va arriver à la conclusion, si vous me suivez, que cet enfant aurait un QI de 120. C'est-à-dire, attention à parler mathématiques, 12 sur 10 multiplié par 100. Avec cette méthode, un enfant dans la moyenne, dont l'âge mental correspond à l'âge réel, aura donc un QI de 100. Vous suivez toujours ? Wechsler affine en 1939 cette méthode et propose un nouveau calcul qui va donner des points selon les tâches réussies. Alors, il garde le principe de l'étalonnage sur une moyenne de 100 parce que, entre-temps, les psychologues se sont habitués à Stern et ils s'y retrouvent facilement. Et il va en plus instaurer un écart type de 15 comme discriminant et il va appliquer la fameuse courbe en cloche, donc courbe de Gauss, autrement dit. Donc, il conserve le terme de QI, mais en fait, le chiffre n'a plus rien à voir avec un quelconque quotient. Et ensuite, il élargit cet outil et il l'applique aussi aux adultes. Et c'est de nos jours ce mode de calcul qui est toujours couramment utilisé. On se rend bien compte, en écoutant cette histoire, qu'il y a une profonde dichotomie, pointée entre autres par Jacques Lautré, un professeur en psychologie différentielle, développementale et cognitive, entre les tests tels qu'ils ont été créés à l'origine, c'est-à-dire avec une représentation unidimensionnelle de l'intelligence, qui était celle de ce qu'on va appeler le sens commun pour Binet, et qui avait pour seul but de diagnostiquer à l'instant T un enfant, avec du coup la représentation actuelle de l'intelligence, qui, on le sait, aurait plutôt tendance à être multidimensionnelle. Donc même si ces recherches actuelles vont en effet vers cette logique d'une intelligence multidimensionnelle, alors ce qu'on retrouve du reste dans une moindre mesure dans l'évolution des tests qui prennent en compte un peu plus de facteurs qu'au départ. Mais le grand public est resté sur une représentation unidimensionnelle de l'intelligence représentée par ce qui est toujours appelé le fameux QI. Au final, c'est l'utilisation du QI qui semble faire débat et la façon dont ce diagnostic a été dévié de son but initial. Les tests de QI ne peuvent pas prétendre mesurer l'intelligence. Pourtant, c'est comme ça qu'ils sont souvent vus, perçus, voire vendus. Et pire, pour la plupart, ils sont établis pour mesurer des performances et des aptitudes choisies de manière à correspondre, par exemple, à une sorte de réussite sociale ou scolaire. Ça inclut des biais culturels importants. Le milieu social, les études, les parcours, tout ça sont déterminants dans la mesure d'un QI. On peut donc se poser beaucoup de questions sur son utilisation. Au vu de l'engouement qui pousse certains à passer les tests, les conditions de la passation, est-ce qu'elles sont suffisamment encadrées? Est-ce que le QI est vraiment nécessaire? Est-ce que le sérieux est toujours au rendez-vous? Alors, non, pas toujours, hélas. Au fur et à mesure que s'établit un marché, du marketing qui répond à une angoisse de performance inhérente à notre société. En tout cas, il ne faut pour autant pas oublier que le QI s'il est utilisé de façon pertinente, permet de mieux comprendre, de mieux se comprendre, afin de prendre en compte ses propres spécificités, ses propres fonctionnements cognitifs, sans pour autant y mettre des étiquettes ou des cases fermées. J'espère que vous en savez désormais un peu plus sur cette fameuse histoire du QI, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.